Chapitre 3. Suivant le cours de cette fameuse journée du 24. Pendant que le roi, sur le billard où nous l'avons laissé pour nous occuper du président Jeannin, recevait les félicitations des princes du sang et réintégrait les ministres du roi son père dans leur charge, le colonel d'Ornano, le même qui avait pris le roi dans ses bras pour le hausser à la hauteur des fenêtres et le montrer aux gardes, le colonel d'Ornano courait au parlement qui avait déjà levé sa séance. Mais il apprit que les présidents étaient au bureau des eaux et forêts, et il y entra pour leur annoncer la nouvelle. « Messieurs, c'est le terme générique dont on désignait les conseillers au Parlement, les avocats et les greffiers n'ayant pas le titre de maître. Messieurs la savaient déjà par deux exemples aux gardes. » Le colonel d'Ornano entra dans le cabinet où étaient les présidents. « Messieurs, leur dit-il, je viens vous annoncer que le roi a fait tuer le maréchal d'Ancre pour se mettre en liberté. J'ajouterai, au nom de sa majesté, qu'elle espère que vous êtes et serez toujours dans la même volonté de lui rendre un fidèle service. En échange de quoi, messieurs, vous pouvez être assurés que le roi sera un bon roi. » Monsieur le président répondit, bien entendu, au nom de toute la compagnie, et il accourut lui-même à pied, n'ayant pas pu trouver un carrosse, tant la confusion était grande. Tout cela mena le roi jusqu'au dîner, comme le lecteur le verra en lisant le journal hygiénique du roi Louis XIII. Puis, après le dîner, le cardinal de la Rochefoucauld vint saluer le roi. Et voyant qu'au lieu de le laisser tranquillement jouer avec ses camarades, on l'interrompait à tout moment pour lui parler affaires graves et intérêts sérieux, « Sire, dit-il, que votre majesté s'accoutume à la patience, mais elle saura dorénavant qu'elle sera bien autrement empêchée encore. » « Vous vous trompez, monsieur. J'étais plus empêché de faire l'enfant que je ne le suis à toutes ces affaires-là. » Puis, s'adressant à celui qui était le plus près de lui, « On m'a fait 6 ans durant fouetter les mulets aux Tuileries, dit-il. Il est temps qu'enfin je fasse mon métier de roi. » Alors il se mit à parler plus haut et plus vivement qu'il n'avait jamais fait, peut-être poussé par une espèce de fièvre. « Messieurs, dit-il, convenez d'une chose, c'est qu'il faut que je sois bien aimé des Français, puisque, ayant été forcé de communiquer mon dessein à plus de 20 personnes, aucune n'en a averti ce personnage. Au reste, ce n'est point d'hier que je pense à être le maître. Il y a déjà longtemps que, lors d'un voyage à Saint-Germain, j'avais résolu de m'en aller de là à Rouen, et, une fois arrivé à Rouen, d'y mander mes serviteurs. Une autre fois, ce fut à Amboise que je voulais fuir. Puis, j'eus encore une idée. C'était d'inviter le maréchal à venir voir, dans ma chambre, les petits canons avec lesquels j'avais bâti mon fort des Tuileries, et de me faire observer par Ducluseau que j'avais laissé 3 ou 4 pièces de mon artillerie au bas de la galerie. Alors je serais sorti, comme pour les faire venir, j'aurais laissé le maréchal seul dans mon cabinet. Vitry et les siens fussent entrés et l'eussent tué comme aujourd'hui. Mais il ne leur donna point ce loisir. Enfin vint le projet d'hier qui a échoué parce que, ayant pris médecine le matin, il se retira chez lui aussitôt après la visite de ma mère. Et comme un murmure approbateur indiquait l'admiration que les auditeurs avaient pour cette persévérance, « Aussi, messieurs, continua le roi, il faut convenir que ce maréchal était un grand impudent. L'autre jour, jouant au billard avec moi, ne s'est-il pas couvert ? Il est vrai qu'il m'en demanda la permission après, en me disant « Sire, votre majesté me permettra bien de me couvrir. » Mais il l'avait déjà fait avant de me le demander. Aussi lui répondis-je « Oui, couvrez-vous » d'un ton qui dut lui faire comprendre qu'il m'avait offensé. Un autre jour, peut-être le même, n'alla-t-il pas s'asseoir au conseil des dépêches dans mon propre fauteuil et ne se fit-il pas lire le courrier par les secrétaires d'État, chacun dans son département, commandant à la baguette, donnant son approbation ou sa réprobation selon sa fantaisie ? Quelques jours avant, comme j'étais tout seul dans une chambre, ne vint-il pas me faire visite avec 200 ou 300 gentilshommes qui sont entrés et sortis avec lui, sans qu'un seul songeât à rester pour me faire compagnie ? Une autre fois, ne dit-il pas, je ne sais plus pour quel enfantillage, que j'avais mérité le fouet ? Cordieu ! Le roi mon père me l'a fait donner quand j'étais enfant, mais c'était un droit à lui. Et encore croyait-il, l'orgueilleux maréchal, quand je le regardais de travers, que l'on me montait la tête contre lui. Et la preuve, c'est qu'il disait à Luynes, « Monsieur de Luynes, je m'aperçois bien que le roi boude, mais prenez garde, vous m'en répondez. »« Ventre Saint-Gris, comme disait feu mon père, oui, je lui faisais mauvaise mine. » Mais par bonheur, nous avons changé de rôle, et c'est lui qui l'a fait à cette heure. » Et sur ce trait d'esprit dont il faut savoir gré à Louis XIII, attendu qu'ils sont rares chez lui, il cessa enfin ce long discours que M. de Marillac, qui fut plus tard garde des Sceaux, recueillit dans toute l'incohérence fiévreuse avec laquelle nous le reproduisons. En ce moment, les députés du Parlement, présidents et conseillers, arrivèrent. Ils étaient 11 en tout. 3 présidents, 8 conseillers. Ils trouvèrent Sa Majesté dans la galerie. On eût dit que le roi, après avoir gardé si longtemps le silence, éprouvait un instant le besoin de parler. « Messieurs, dit Louis XIII en allant à eux, je m'assure sur votre fidélité et veux me conduire par vos conseils aux affaires les plus importantes. Je vous ai mandé pour prendre votre avis. Allez-vous-en au cabinet où mon conseil est assemblé et vous apprendrez ce que c'est. » Ils y allèrent. Là, on leur dit qu'il y avait 2 choses sur lesquelles le roi désirait leur avis. L'une, de savoir si le procès devait être fait au corps du maréchal d'Ancre. L'autre, s'il croyait qu'il fût nécessaire que le roi envoyât des lettres de grands sceaux aux provinces et au Parlement au sujet de ce qui s'était passé. Ce à quoi, après en avoir conféré ensemble, les membres du Parlement répondirent. Quant au premier point, puisque le maréchal est mort et qu'il n'y a plus rien à craindre de sa part, la clémence du roi serait louable de se contenter de cela sans approfondir davantage les crimes qu'il a commis, d'autant plus que, le roi l'ayant fait mourir, l'aveu de Sa Majesté couvre tout, et agir autrement, ce serait révoquer en doute la puissance du roi. Et quant au second point, ils ajoutèrent que le maréchal n'était pas homme de si grande considération qu'il y fallût mettre tant de cérémonies que d'user de lettres patentes comme si c'était quelque grand prince. Cela fait, ils se retirèrent, et leur avis ayant été trouvé bon, il fut suivi. L'alali avait eu lieu le matin. Le soir, il y eut la curée. Ce fut au coucher du roi que chacun se partagea, celui-ci le cœur, celui-là le foie, qui la rate, qui les entrailles. Vitry fut fait maréchal, c'était chose promise. Il eut, en outre, dans son héritage, mobilier et immobilier. La baronnie de Lézigny, la maison de Paris et les chevaux de l'écurie, lesquels furent enlevés dès le lendemain matin. Duvert, qui venait de rentrer en fonction après la mort du maréchal et qui avait les sceaux, ne cacha point à Vitry le mépris qu'il faisait de lui lorsque celui-ci vint faire sceller ses provisions. Et comme M. de Thémines avait été fait maréchal quelques mois auparavant pour avoir arrêté M. le prince de Condé, M. de Bouillon ne put s'empêcher de dire « Par ma foi, je rougis d'être maréchal de France depuis que le bâton est devenu la récompense des sergents et des assassins. » En outre, M. de Gérand se plaignit. M. de Gérand avait un brevet en blanc de la première charge de maréchal vacante et la mort de Concini venait de faire une vacance. Mais on lui dit que, la mort de Concini n'étant point une mort ordinaire, la vacance, par contre-coup, n'était point une vacance ordinaire et qu'il n'était point raisonnable de penser que Vitry eût tué Concini pour s'exclure lui-même au profit d'un étranger. M. de Gérand comprit et attendit une vacance ordinaire. M. de Luynes eut la charge de premier gentilhomme de la Chambre et la lieutenance générale pour le roi en Normandie avec Pont de l'Arche. M. de Vendôme recouvra le château de Caen qu'il tenait de la main même du feu roi et que le maréchal lui avait ôté. Il demanda en plus et obtint l'abbaye de Marmoutier. L'évêque de Bayonne demanda l'archevêché de Tours, lequel, comme l'évêché de Bayonne, était aux frères de la maréchale, qui les résigna, se réservant 1000 écus de pension sur chacun d'eux. Le marquisat d'Ancre resta en suspens et, plus tard, fut donné pour arrondir la part de Deluynes. Perret, beau-frère de Vitry, eut la capitainerie de la Bastille, dont il prit possession 3 jours après. Duhallier, frère de Vitry, eut la charge de capitaine des gardes et devint plus tard le maréchal de l'hôpital. L'hôpital est le vrai nom des Vitry. En outre, ayant appris que l'apothicaire du maréchal avait un de ses coffres et que ce coffre avait été saisi par le commissaire du quartier au commandement du lieutenant civil, il demanda ce coffre au roi qui le lui donna, quoi que ce fût. Ce coffre n'était que l'enveloppe d'une boîte contenant des pierreries pour plus de 20 000 écus. Après quoi, le roi congédia ses bons amis, tourna le nez du côté du mur et s'endormit. Consultons l'honnête docteur Hérouard pour savoir comment, hygiéniquement, se passa cette journée et combien d'heures un assassin royal peut dormir après son premier meurtre. Le 24 avril 1617, lundi, éveillé à 7h30 après minuit. Pouls plein, égal, petite chaleur douce, levé, bon visage, gai. Pissé jaune, fait ses affaires. Peigné, vêtu. Priez Dieu. À 8h30, déjeuner. Gelé, 4 cuillers. Point bu, si ce n'est du vin clairé, fort trempé. Ici, il y a une petite lacune au journal. Nous la reproduisons dans sa forme et avec le blanc qu'elle laisse. Le maréchal d'Ancre. Tué sur le pont du... Louvre, entre 10 et... 11h du matin. Pour le digne médecin, la catastrophe n'avait point grande importance à ce qu'il paraît. Aussi ne lui consacre-t-il que cette seule note. Puis il reprend son journal qui contient une série d'événements bien autrement importants à ses yeux. Dîner à midi. Il y a, vous le voyez, un retard de 2 heures dans le dîner. Dame, comme on dit, on ne fait point d'omelette sans casser des œufs. Mais soyez tranquille, Sa Majesté n'en mangera que mieux. Reprenons donc. Dîner à midi. Bout d'asperges en salade, 12. 4 crêtes de coq sur un potage blanchi. Cuir et de potage, 10. Bout d'asperges sur un chapon bouilli. Veau bouilli. La moelle de noces. Taillerin, 12. Les ailes de 2 pigeons rôtis. 2 tranches de gélinotte rôties avec pain. Gelé, figues, 5. Guigne sèche, 14. Cotignac sur une oublie, pain peu, bu du vin clairé fort trempé, dragée de fenouil, une petite cuillerée. Autre blanc. Le royal pensionnaire échappe à son docteur. Il monte sur un billard et harangue les assistants. Il reçoit les députés du Parlement, il cause, il fait le roi. Mais à 6h30, l'appétit lui revient et il retombe sous la griffe de son docteur. 6h30, souper. Bout d'asperges en salade, 12. 12 pains en panade. Bout d'asperges sur un chapon bouilli, veau bouilli, la moelle de noces, mousseron au beurre avec une rôtie dedans, les ailes de 2 pigeons rôtis avec pain. Gelé. Suc de 2 oranges douces. Figues, 5. Grains de verjus confit, 5. Guignes sèches, 4. Pain fort peu. Bu du vin clairé fort trempé. Dragée de fenouil, la petite cuillerée. Amusé jusqu'à 7h30. Fait ses affaires, jaune molle beaucoup. Amusé jusqu'à 9h30. Bu de la tisane, dévêtu, mis au lit. Pouls plein, égal, petite chaleur douce. Priez Dieu, à 10h, s'endort jusqu'à 7h30. Nous voilà rassurés sur le compte de ce pauvre roi qui vient de prendre tant de tracas à l'endroit du maréchal d'Ancre. Son dîner a été retardé de 2 heures. Il a toujours le ventre un peu relâché. On sait que c'est l'effet que produisait à son père la vue de l'ennemi. Mais il s'est amusé de 7h à 7h30, de 8h à 9h30, ce qui n'est pas dans ses habitudes. La chose est si vraie que nous avons ouvert au hasard le journal du docteur Hérouard à 100 endroits différents et que nous n'avons jamais retrouvé ce précieux mot « amusé ». En effet, on sait que Louis XIII a été le roi le moins amusé et même le moins amusable qu'ait jamais eu la monarchie française. Ce qui ne l'empêche pas d'être assez amusant, quoique son fils Louis XIV lui ait fait sur ce point une rude concurrence. Mais aussi, on ne peut pas s'amuser tous les jours. Et le jour de l'assassinat du maréchal d'Ancre, le roi, comme constate ce bon monsieur Hérouard, s'était amusé 2 fois. En outre, il s'était mis au lit avec un pouls plein, égal, avec une petite chaleur douce. Il avait prié Dieu à 10 heures et s'était endormi jusqu'à 7h30 du matin, c'est-à-dire qu'il avait dormi un peu plus de 9 heures. Pauvre roi ! Voyons un peu à quoi songeait pendant le sommeil de son roi le bon peuple de Paris. Le bon peuple de Paris songeait à déterrer le corps du maréchal d'Ancre. Le lendemain, mardi 25 avril, le roi fut réveillé par un grand tumulte vers 7 ou 8 heures du matin. S'il n'eût point été réveillé par ce grand tumulte, peut-être, au lieu de dormir 9 heures, eût-il fait le tour du cadran et en eût-il dormi 12. Ce tumulte était causé par la populace de Paris qui se ruait vers l'église Saint-Germain-l'Auxerrois dans la louable intention de faire ce que le Parlement avait jugé inutile, le procès au corps du maréchal. Voici comment la chose s'était passée, ou plutôt comment la chose se passait. Au point du jour, un des familiers de l'église avait montré à l'un de ses amis l'endroit où avait été déposé le corps du maréchal. Cet ami l'avait montré à un autre, l'autre à un autre, et ainsi il s'était fait un rassemblement. D'abord on commença par cracher sur cette tombe, puis on trépigna dessus. Puis quelques-uns commencèrent à gratter avec leurs ongles et firent si bien qu'ils finirent par découvrir les jointures des pierres. Les prêtres alors les chassèrent. Mais les prêtres étant sortis en procession et n'étant plus là pour les chasser, le peuple rentra et se mit à gratter la tombe avec une telle force qu'en moins de rien, il en eut ôté quelques pierres. Ces pierres enlevées étaient du côté des pieds que l'on aperçut par l'ouverture. Alors on amena les cordes des cloches, on les attacha au pied du cadavre et l'on tira tant et si bien qu'on arracha le corps hors de terre comme on arrache un bouchon d'une bouteille. Tout cela se faisait au cri de « Vive le roi !» Le tumulte était si grand que les prêtres, au retour de la procession, reconnurent qu'il était trop tard pour y remédier. Ils furent même obligés, tant l'église était encombrée, de remettre au lendemain les messes qu'ils avaient à dire le jour même. Le peuple, en effet, était monté sur les chaises, sur les bancs, sur les autels et jusque sur le treillis des chapelles et des arcades. Quelques officiers qui tentèrent de rétablir l'ordre se reconnurent bientôt trop faibles. Le grand prévôt vint avec quelques archers, mais le peuple lui cria que s'il avait le malheur d'entrer dans l'église, il enterrerait tout vivant à la place du maréchal d'Ancre et, cette fois, veillerait à ce qu'on ne le déterrât point. Le grand prévôt se retira. Après avoir été tiré hors de la tombe, le corps fut tiré hors de l'église et traîné, par les pieds toujours, et la tête rebondissant sur le pavé, jusqu'au logis de Barbier, l'ex-surintendant des finances qui demeurait en face. Là, on fit une première halte. La colère de la multitude se partageait entre le mort et le vivant, et sans les archers qui gardaient le prisonnier chez lui, on allait enfoncer et piller sa maison. Après quoi, selon toute probabilité et même avant quoi, on l'eût pendu lui-même. Barbier en fut quitte pour le spectacle qu'il vit de la fenêtre comme d'une première loge. De là, ces furieuses entraînèrent le corps, ne cessant point pendant toute la route de le battre à coups de bâton et à coups de pierre, jusqu'au bout du pont neuf où s'élevait une potence qui, un mois ou deux auparavant, y avait été plantée par le maréchal afin d'y faire pendre ceux qui parlaient mal de lui. Ajoutons bien vite que le maréchal n'y avait fait pendre personne. Mais à d'autres potences, et pour les pendus, l'origine de la potence n'y fait rien, mais à d'autres potences avait, jusqu'à ce que mort s'en suivit, été accroché un certain nombre d'Écossais. Quelques valets de ces Écossais, qui se trouvaient sans condition par suite de la mort de leur maître, proposèrent les premiers de pendre le cadavre du maréchal à la susdite potence. Un grand laquais, qui avait été lui-même au service du maréchal, service dont il était sorti sur la menace que lui avait faite le maréchal de le faire pendre, en voulut avoir l'honneur et le réclama, disant « Le diable rira bien quand il verra que celui qui pendait les autres est pendu lui-même. » Sur cette plaisanterie, il eut la préférence et le cadavre soulevé et porté jusqu'à la potence par le peuple fut pendu la tête en bas par ce laquais. Le diable en rit-il ? Nous n'en savons rien. Mais il y avait de quoi faire grincer les dents aux anges. Tandis que l'on travaillait à cette belle besogne, une des compagnies des gardes du roi passa sur le pont neuf pour s'en aller au Louvre. mais elle se garda bien d'empêcher le peuple de s'amuser. Le roi ne s'était-il pas amusé la veille ? Il y a plus. Comme il manquait à ce bourreau pris au dépourvu un bout de corde, les soldats lui jetèrent les mèches de leurs arquebuses, si bien qu'il en eut bientôt 10 brassées au lieu d'une qu'il lui fallait. Le corps demeura pendu là plus d'une demi-heure, durant laquelle le laquais qu'il avait pendu tendit son chapeau aux assistants, leur demandant quelques petites rétributions pour la peine qu'il avait prise. Les assistants trouvèrent la chose si juste qu'en un instant son chapeau fut rempli de sous et de deniers que chacun lui portait comme à l'offrande, et cela jusqu'au gueux, jusqu'au mendiant, et tel n'avait qu'un denier en sa possession, le lui donnait, dit Marillac, tant la haine était grande contre ce misérable. Mais ce n'était point assez, comme vous comprenez bien. Pendre, c'est ce que l'on voit faire tous les jours au bourreau. Pendre soi-même, c'est ce que l'on a la chance de faire parfois. Mais pouvoir mutiler un corps, c'est ce qui n'arrive que par hasard. Le peuple se rua donc sur le corps de ce pauvre pendu, les uns frappant des poings, les autres des pieds, les autres du couteau, à grands coups d'épée et de poignard. On lui enleva les yeux, on lui coupa le nez, on lui tailla des lambeaux sur tout le corps. Puis on lui désarticula les bras et on lui trancha la tête, et tous ces morceaux furent portés ou traînés dans les divers quartiers de Paris, avec des cris et des imprécations dont le retentissement allait d'un bout à l'autre de la ville. La maréchale entendit ces cris et demanda quelle en était la cause. Les gardes lui dirent que c'était son mari que l'on avait déterré et pendu. Alors elle, dont les yeux jusque-là étaient restés secs, commença de s'émouvoir, tout en disant que son mari était un présomptueux et un orgueilleux, qu'il n'avait rien qu'il ne méritait, que c'était un méchant homme, et que, fût-il resté tout-puissant, elle avait pris la résolution de retourner en Italie dès les premiers jours du printemps. Comme le bruit approchait du Louvre, l'enfant qui était, comme nous l'avons dit, dans la chambre de M. de Fiesque, demanda si l'on ne venait pas pour le tuer. On lui répondit que non et qu'il était en sûreté. Sur quoi le pauvre enfant, que son malheur avait vieilli de 10 ans en 24 heures, dit « Hélas, mon Dieu, ne vaudrait-il pas mieux que l'on me tuât que de me laisser vivre? Je ne puis plus qu'être misérable le reste de mes jours, comme au reste je l'ai été depuis que j'ai connaissance de la vie, car je ne me suis jamais approché de mon père ou de ma mère que je n'en ai rapporté quelques soufflets pour toute caresse. » Alors les archers auxquels il s'adressait ouvrirent la fenêtre qui donnait sur le pont et lui montrèrent le cadavre de son père pendu et en butte aux insultes de la populace. C'était juste le moment où ces furieux s'en partageaient les morceaux, emportant ceux-ci la tête d'un côté, ceux-là les bras d'un autre. 5 ou 6, ayant coupé la corde par laquelle il avait été pendu, traînèrent le cadavre mutilé vers la rue de l'Arbre sec. À l'entrée de cette rue, un homme vêtu de rouge se jeta sur ce tronc informe, lui ouvrit la poitrine d'un coup de couteau, y fourra la main, la retira sanglante et suça le sang qui en dégoûtait. Un autre plongea sa main dans la même plaie et arracha le cœur du cadavre. Puis, ayant demandé des charbons, il les alluma, emprunta un gril, découpa ce cœur par tranches qu'il fit rôtir et mangea ces tranches en les trempant dans le sel et les arrosant de vinaigre. De la rue de l'Arbre sec, on traîna ce qui restait du corps jusqu'à la grève. Au milieu de la place, on trouva une potence dressée, comme l'autre, par l'ordre du maréchal. On le rependit à cette potence. Puis, du linceul du mort, on fit une poupée représentant la maréchale et que l'on pendit à une potence en face. Après quoi, l'immonde promenade recommença. On traîna ces malheureux débris jusqu'à la Bastille. Là, on en tira les entrailles que l'on jeta dans un grand feu. Puis, on porta le reste dans le faubourg Saint-Germain, devant la maison du maréchal et devant celle de M. de Condé. Et, à chaque station, disparaissaient quelques fragments de ce qui avait été un être animé, vivant, pensant, et n'était plus qu'une masse de chair informe et d'eau brisée. Enfin, on fit encore quelques tours par la ville, on repassa le Pont-Neuf, on brûla une cuisse devant la statue du feu roi, une autre cuisse au coin du quai de la Mégisserie et le tronc sur la place de Grève, en face de l'hôtel de ville, dans un feu composé tout entier de potences brisées. Et, tronc et potences réduits en cendres, on jeta cette cendre au vent, afin, disaient les bourreaux, « que tous les éléments en eussent leur part. Après quoi, toute cette multitude s'en revint danser une ronde autour de la potence où d'abord le cadavre avait été pendu. Puis on y mit le feu par le pied, on ramassa des combustibles tout alentour et on la brûla comme on avait fait des autres. Il semblait que, tandis qu'il était en train, le peuple ne voulut pas laisser une potence dans tout Paris. Finissons-en avec l'horrible récit. Nous avons nous-mêmes hâte d'en sortir. Les cendres du maréchal jetées au vent, on ne s'occupa plus de lui. Mais restait sa femme. Le 8 juillet 1617, le Parlement déclara la maréchale d'Ancre et son mari criminels de lèse-majesté divine et humaine. En réparation de quoi, il flétrit la mémoire du maréchal et condamna sa femme à avoir la tête tranchée. Celle-ci ne s'attendait point à être condamnée à mort, elle croyait seulement être exilée. Si bien que, lorsqu'on lui lut la sentence, elle tomba de son haut, comme on dit, en s'écriant « Oh, mais poveretta !» Mais comme, à tout prendre, c'était une femme d'un vrai courage, elle se résolut incontinent à la mort, et cela avec une grande constance et une suprême résignation à la volonté de Dieu. Sortant de sa prison pour marcher au supplice et voyant une grande multitude de peuples assemblés pour la regarder passer, « Que de personnes réunies !» dit-elle avec un soupir, « pour voir mourir une pauvre affligée !» À quelques pas de là, reconnaissant quelqu'un à qui elle avait rendu un mauvais office près de la reine, elle pria que l'on arrêtât la charrette et fit signe à la personne de s'approcher. Alors elle lui demanda humblement pardon, priant Dieu, si son pardon était sincère, de faire connaître ce pardon en lui donnant la force de bien mourir. Et l'on eût dit que Dieu l'avait entendue et lui avait accordé sa prière, car à partir de ce moment, elle devint humble et patiente, et il se fit en elle un si complet changement que ceux qui assistèrent au spectacle de sa mort, étant venus pour la railler et l'insulter, sentirent la pitié se glisser malgré eux dans leurs âmes, et ne virent bientôt plus qu'à travers leurs larmes ce supplice tant désiré. Au pied de l'échafaud, elle avait reconnu un gentilhomme appartenant au commandeur de Sillery. Elle l'appela comme elle avait déjà fait de cette autre personne qu'elle avait rencontrée au sortir de la prison, et elle pria ce gentilhomme de dire à monsieur de Sillery et au chancelier de son frère qu'elle leur demandait bien humblement pardon du mal qu'elle leur avait fait. Et comme, après cette demande, elle était montée sur son échafaud, du haut de la plateforme, elle cria encore. « Tout ce que j'avais dit sur eux, priez-les bien instamment, monsieur, de me pardonner mon mensonge !» Puis, s'étant mise à genoux, elle se recommanda à Dieu, posa sa tête sur le billot en demandant « Suis-je bien ainsi ?» Pour toute réponse, le bourreau leva son épée, un éclair brilla. La tête était tranchée et roulée sur l'échafaud, que ses lèvres s'agitaient encore pour prononcer la dernière syllabe du mot « ainsi ». Restait l'enfant. Grâce à la protection de Fiesque, il ne lui fut fait aucun mal et il put librement se retirer en Italie, où il vécut paisible et obscur. Il pouvait avoir 15 ou 16 000 livres de rente, débris d'une fortune de 15 ou 20 millions. Il mourut jeune. Ce lundi 1er mai, la reine-mère envoya demander au roi 6 choses par écrit. C'était l'évêque de Luçon qui était porteur des 6 demandes. Disons qu'à cette époque, l'évêque de Luçon passait pour être l'amant de la reine. Plus tard, il passa pour avoir été tout à la fois son amant et son espion. Voici les 6 demandes qu'il était chargé de faire. Premièrement, que le roi permît à sa mère de se retirer à Moulins ou dans toute autre ville de son apanage. Deuxièmement, qu'elle pût savoir qui l'accompagnerait dans son exil. Troisièmement, que le roi lui accordât pouvoir absolu dans la ville où elle se retirerait. Quatrièmement, qu'elle sût si elle jouirait de ses apanages et appointements. Cinquièmement, qu'elle pût voir le roi avant de partir. Sixièmement, qu'on lui assurât que Barbin aurait la vie sauve. De même que Richelieu passait pour être l'amant de la reine-mère, Barbin passait pour être l'amant de la maréchale d'Ancre. Le roi se fit donner les 6 demandes et, de même qu'elles étaient faites par écrit, répondit par écrit à chacune d'elles. À la première, qu'il n'avait pas délibéré d'éloigner sa mère, mais de lui faire, au contraire, dans ses affaires, la plus grande part qui lui serait possible. Que cependant, au cas où elle serait résolue de se retirer, elle pourrait le faire quand il lui serait agréable, soit à Moulins, soit dans telle autre ville du royaume qu'il lui plairait de choisir. À la seconde, qu'elle ne serait accompagnée que de ceux qu'il lui conviendrait d'admettre en sa compagnie. À la troisième, qu'elle aurait pouvoir absolu, non seulement dans la ville de sa résidence, mais encore dans toute la province où elle serait située. À la quatrième, qu'elle pourrait vivre de tous ses apanages et appointements, et que, quand il ne suffirait pas, on verrait à lui en donner davantage. À la cinquième, que le roi la verrait bien certainement avant qu'elle partît. À la sixième, qu'à l'égard de Barbin, il tâcherait de lui donner contentement. La reine fixa son départ au mercredi suivant et résolut d'aller à Blois. Elle séjournerait dans cette ville jusqu'à ce que sa maison de Moulins fût préparée. Le roi accepta l'entrevue pour le mercredi et décida qu'en même temps que la reine irait à Blois attendre que sa maison de Moulins fût réparée, il irait, lui, avec la jeune reine, à Vincennes, attendre que le Louvre fût nettoyé. Ce nettoyage avait pour but de voir si quelques maréchalistes, on appelait ainsi les partisans de Concini, qui, au reste, pauvres diables de cadavres en lambeaux et en cendres, n'avaient plus guère de partisans, si quelques maréchalistes, disons-nous, n'avaient pas fait un dépôt de poudre dessous de la chambre du roi. Ce mercredi, à l'heure convenue, c'est-à-dire à 11 heures du matin, on a vu par le journal des rois que Sa Majesté dînait à 10 heures, le roi descendit à l'appartement de Marie de Médicis avec son frère le duc d'Anjou. Le roi tenait Deluine par la main. Devant le roi et Deluine marchaient les deux frères de ce dernier, Cadenet et Brantès. Le prince de Joinville qui devint, après Deluine, le mari de la Connétable et fut fait alors duc de Chevreuse, suivait le roi, monsieur le duc d'Anjou et Deluine. C'était dans l'antichambre de Marie de Médicis que la mère et le fils devaient se voir. Ils entrèrent chacun en même temps et par une porte différente. Tout le dialogue que la mère et le fils devaient avoir ensemble avait été réglé d'avance par demandes et par réponses. Quand Marie de Médicis aperçut Louis XIII, les larmes lui coulèrent sur les joues. Mais, ayant jeté les yeux sur le roi et s'apercevant qu'il s'avançait gravement et sans aucune marque d'émotion, elle eut honte d'elle-même, cacha ses yeux avec son mouchoir et son éventail. Puis, tirant le roi dans l'embrasure d'une fenêtre, « Monsieur, lui dit-elle, j'ai fait ce que j'ai pu pour m'acquitter dignement de la régence et administration que vous m'aviez commise, de vos affaires et de votre état. Si le succès n'en a pas été aussi heureux que j'avais désiré, et que s'il y est advenu aucune chose qui n'ait pas été conforme à vos intentions et qui vous ait mécontenté, j'en suis Marie. Je suis bien aise que vous ayez repris vous-même la conduite de votre état et prie Dieu de bon cœur que ce soit avec toutes sortes de prospérité. Je vous remercie de la permission que vous m'avez baillée de me retirer à Blois et ensemble de toutes les autres choses que vous m'avez accordées et vous prie d'avoir pour agréable ce que j'ai fait pour vous jusqu'à présent. Je vous prie encore de vous souvenir de moi et de m'être bon roi et bon fils. » « Madame, répondit le roi, sans que le moindre changement dans son accent trahît une émotion quelconque, j'ai su que vous avez apporté toutes sortes de soins et d'affections dans la conduite de mes affaires et que vous aviez fait tout ce que vous pouviez. C'est pourquoi je l'ai eu pour agréable et vous en remercie bien fort comme étant content et très satisfait. Vous avez voulu aller à Blois, je l'ai trouvé bon puisque vous le désirez. » Mais quand vous eussiez voulu rester à la cour, je vous y eusse toujours donné la part que vous devez avoir en la direction de mes affaires et serai toujours prêt à le faire quand vous voudrez. Et en toute façon, je ne manquerai jamais de vous honorer, de vous aimer et de vous obéir comme fils. » Alors la reine-mère ajouta, « Monsieur, lorsque ma maison de Moulins sera réparée, trouvez-vous bon que je m'y retire ?»« Vous ferez comme il vous plaira, madame, » répondit le roi. Et quand Moulins ne vous agréera plus, vous pourrez choisir telle autre ville de mon royaume que bon vous semblera, et partout où vous serez, vous aurez le même pouvoir que moi. Monsieur, dit alors Marie de Médicis, je m'en vais. Je vous ai fait prier pour Barbin. Trouvez-vous bon que je vous demande une grâce ? Le roi fronça le sourcil et fit un pas en arrière. Ce qu'allait lui demander la reine n'était pas sur le programme arrêté d'avance.
« Rendez-moi Barbin, mon intendant !» continua la reine. « Je ne crois pas que vous ayez dessein de vous servir de lui. »
Le roi ne répondit point. Marie revint à la charge.
« Monsieur, ajouta-t-elle, ne me refusez pas. C'est peut-être, qui sait, la dernière chose dont je vous prierai. »
Louis continua de garder le silence. Marie, voyant qu'il y avait chez le roi parti pris de ne pas lui répondre, se baissa pour embrasser son fils. Le roi lui fit la révérence et se retira en arrière. Alors, déconcertée de cette dureté, la reine-mère se mit à embrasser le duc d'Anjou, qui, de son côté, comme si la leçon lui eût été donnée, répondit à peine à ses embrassements et ne dit que 3 ou 4 mots à sa mère. Alors vint le tour de Deluine, qui la salua. Marie, tout en larmes et le cœur gonflé, se rattacha à lui et le tira à part, disant
« Vous savez bien, monsieur Deluine, que je vous ai toujours aimé. Tenez-moi donc, je vous prie, dans les bonnes grâces du roi. »
Mais Louis, impatienté d'un si long entretien, se mit à crier et à appeler par 4 ou 5 fois.
« Luine ! Luine !»«
Madame, dit le favori, vous l'entendez, je ne puis me dispenser de suivre le roi. » Et il se retira. Restée seule, Marie de Médicis éclata en sanglots. Sa douleur était si grande qu'elle ne leva pas même les yeux sur les seigneurs qui venaient lui faire la révérence. Mais tout aussitôt, elle monta en carrosse, accompagnée des 2 filles de France, des princesses et des dames de la cour qui la conduisirent jusqu'à 1 ou 2 lieues hors de la ville. Elle avait 2 carrosses. Quand elle fut au bout du Pont-Neuf, au lieu de suivre la rue Dauphine, dans laquelle toute son escorte et le premier carrosse étaient entrés, elle se détourna et s'en alla passer par la rue Saint-Jacques. C'était pour ne pas voir son palais du Luxembourg qu'elle faisait bâtir dans le faubourg Saint-Germain. Louis n'avait pas le cœur si tendre. Il se mit aux fenêtres pour voir partir sa mère, et quand il ne put davantage la voir de la fenêtre, il courut sur la galerie pour la suivre encore des yeux. Puis, quand il eut perdu de vue tous les carrosses, « Allons à Vincennes !» dit-il d'un air gai et content. Si l'on doutait cependant des sentiments de Louis XIII à l'égard de sa mère, et si l'air gai et content qu'eut sa majesté en voyant disparaître le dernier carrosse ne suffisait pas au lecteur pour le renseigner sur ce point, nous emprunterions à Bassompierre une petite anecdote qui coïncide pour la date avec la séparation de la reine-mère et de son fils. Le lendemain de l'installation du roi au château de Vincennes, Bassompierre étant entré dans la chambre du roi, comme il sonnait avec acharnement du corps, « Prenez garde, sire, lui dit Bassompierre. Cet exercice peut vous faire beaucoup de mal. On dit qu'en sonnant du corps, le roi Charles IX se rompit une veine et qu'il en mourut. « Vous vous trompez, monsieur, dit Louis XIII. Le roi Charles IX ne mourut pas d'une veine rompue en sonnant du corps. Il mourut de ce qu'ayant eu le bonheur de se brouiller avec la reine Catherine de Médicis, sa mère, il commit l'imprudence de se raccommoder avec elle et d'aller collationner à Monceau. S'il ne fut pas retourné près de Catherine, il ne serait pas mort si jeune. Entendez-vous, monsieur de Bassompierre ?»« Eh bien, s'écria Montpouillan en s'adressant à Bassompierre, vous ne vous doutiez point, n'est-ce pas, monsieur, que le roi en sut tant ?»«
Vous avez par ma foi raison, monsieur, répondit Bassompierre, et j'étais loin de croire sa majesté si savante. »
Nous nous sommes longuement étendus sur toute cette sombre histoire du maréchal d'Ancre parce qu'elle est la première tache de sang répandue sur le règne du jeune Louis. Cette tache de sang, on a voulu l'effacer de l'histoire de celui qui l'a versée et l'étendre sur ses complices. Les historiens passent légèrement sur cette catastrophe et rejettent tout sur Deluine et Vitry. La biographie des contemporains de Michaud, ouvrage Oreste éminemment royaliste, comme si une biographie pouvait avoir une opinion politique, dit à propos de Concini. Le gouvernement, la puissance et l'orgueil de Concini, d'abord marquis et ensuite maréchal d'Ancre, étaient devenus odieux au roi comme à tous les Français. Les troubles recommencèrent et ne furent apaisés qu'après la mort du favori de la reine-mère. Ceci, nous en demandons bien pardon à l'auteur de la biographie, est une première erreur. Les troubles ne furent point apaisés après la mort du favori. Après la mort du favori, les troubles, au contraire, commencèrent,
à moins qu'on n'appelle pas trouble une guerre civile entre une mère et son fils. La biographie continue. Ou plutôt qu'après son assassinat, conséquence funeste d'un ordre de le faire arrêter, que s'était laissé arracher Louis XIII. Vous avez assisté, cher lecteur, à la catastrophe minute par minute, et vous ne croyez plus, je l'espère, que la mort du pauvre maréchal fût l'effet d'un malentendu. J'espère qu'il arrivera un jour où le code portera des peines contre ceux qui commettent des fautes en écriture historique, comme pour ceux qui en commettent en écriture publique et privée. Le faux en écriture publique et privée n'attaque que l'individu. Le faux en écriture historique attaque la nation. Au reste, on l'a vu, nous ne flattons pas plus le peuple que les rois, et nous avons couvert d'une égale réprobation le roi qui assassine le vivant et le peuple qui outrage le mort. Le peuple en robe de chambre est souvent plus laid que le roi. Cela tient à ce que le peuple n'a pas de robe de chambre et quelquefois même pas de chemise. Or, le peuple en robe de chambre, c'est le peuple tout nu. On a vu comment Louis XIII avait reçu l'évêque de Luçon quand celui-ci s'était présenté devant lui le jour de l'assassinat du maréchal d'Ancre. Cependant, comme Marie de Médicis avait demandé et obtenu la permission d'emmener qui elle voulait à Blois, elle demanda d'avoir près d'elle son conseiller Richelieu, ce qui lui fut accordé. Nous avons dit que Richelieu passait pour être autre chose que son conseiller. Marie de Médicis le reçut avec de grandes démonstrations de joie. L'évêque de Luçon se mit alors à travailler à la réconciliation du roi avec sa mère. Ce n'était point l'affaire de Deluynes. 26 jours après son départ de Paris, Richelieu reçut l'ordre de se retirer en son prieuré de Courset en Anjou. Il s'y rendit. Puis, de Courset, on l'invita à se rendre à Luçon. Puis, enfin, à quitter la France et à se retirer à Avignon. Richelieu obéit et, pour se faire oublier, se mit à composer deux des plus pauvres livres qu'il ait faits, « L'instruction du chrétien » et « La défense des principaux points de notre créance contre la lettre des quatre ministres de Charenton » adressé au roi. Là, il vivait dans une retraite si sévère qu'il fit toutes sortes de difficultés pour recevoir son frère le Chartreux, qui avait été évêque de Luçon avant lui et qui devait être plus tard cardinal de Lyon. Il est vrai que ce frère aîné de Richelieu, Alphonse Louis Duplessis, dont nous avons dit un mot, était un singulier homme. Destiné à être chevalier de Malte, dans la prévision d'un naufrage, on avait voulu, enfant, lui apprendre à nager. Jamais il ne put en venir à bout. Un jour, ses parents lui en firent de grands reproches en lui disant qu'il n'était bon à rien. Piqué du mot, il s'en va droit à la rivière et se jette à l'eau. Sans un pêcheur qui accourut avec sa nacelle, il se noyait. Voyant qu'en effet il n'était bon à rien, ses parents le firent homme d'église. Nous avons dit qu'évêque de Luçon, il avait donné cet évêché à son frère, qu'on avait fait lui homme d'église, parce que, pouvait-on dire, il était bon à tout. Les Chartreux de la Grande-Bretagne, où il était, le nommèrent leur procureur dans une contestation avec un gentilhomme fort brutal. Il en reçut des coups de bâton. Il porta chrétiennement cet outrage et refusa toujours de s'en venger, même au temps du plus grand pouvoir de son frère et quand lui-même était cardinal. Un astrologue lui avait prédit qu'il serait un jour en grand danger d'une blessure faite à la tête. Comme il allait voir son frère à Avignon, une chaîne du pont-levis lui tomba sur le crâne et faillit le tuer. Une de ses visions était de se croire Dieu le Père. Un jour, il coucha dans une maison où ses hôtes lui donnèrent un lit dans la broderie duquel il y avait des têtes d'anges et de chérubins. Il s'y coucha avec une telle béatitude que les gens s'écrièrent « Ce n'est pas étonnant, c'est pour le coup qu'il se croit véritablement Dieu le Père. » Madame d'Aiguillon, sa nièce, dont nous nous occuperons bientôt, disait à Ferdinand, le fameux peintre de portraits qui avait fait pour Henri IV le portrait de la princesse de Condé, « Ferdinand, peignez-nous, monsieur le cardinal de Lyon, en Dieu le Père, mais tâchez de lui donner un air dévot. » En effet, ce n'était point par l'air dévot que brillait le futur cardinal. Il était fort mondain, au contraire, quoique sa mondanité n'allât point jusqu'à l'entraîner au péché. Il aimait fort la conversation des dames et se plaisait à entendre chanter Berthold Castrat, que madame de Longueville appelait Berthold incommodé. Un jour, dans une compagnie où l'on proposa de se déguiser, non seulement il n'y mit point empêchement, mais encore il se déguisa en berger comme les autres. Il était à la fois distrait et naïf. Étant cardinal, un gentilhomme du diocèse de Lyon lui amena, pour le tonsurer, son fils qui était tout contrefait. Mais il refusa net. Et, comme le gentilhomme lui demandait la raison de son refus, « Vous moquez-vous de Dieu, lui dit-il, de lui offrir le rebut du monde ?» Et rien ne put le décider à tonsurer le pauvre bossu. L'abbé de Caderousse vint le voir pendant qu'il était dans le comtat. On lui annonça l'abbé. « Faites entrer, dit le cardinal. » L'abbé entre. Le cardinal le regarde. « Eh bien, dit-il. « Eh bien, monseigneur, je suis l'abbé de Caderousse. » Que voulez-vous que j'y fasse ? Je suis venu pour avoir l'honneur de vous faire ma révérence. Si vous êtes venu pour cela, faites-la donc et allez-vous-en. L'abbé fit la révérence et s'en alla. Pendant que M. de Luçon était à Avignon, Deluine jouissait de sa fortune et montait en dignité sans s'inquiéter des vaudevilles que l'on faisait contre lui. On avait beau lui chanter aux oreilles. Deluine avec ses deux frères vont tôt, si Dieu n'y met la main, rendre à la France la misère, plutôt aujourd'hui que demain. Ou bien, France, je plains bien votre triste sort, on reconnaît votre impuissance, Concini vous met en balance, trois faquins vous donnent la mort. D'ailleurs, Deluine avait autre chose à faire que d'écouter des vaudevilles. Deluine se mariait. Il épousait Mademoiselle de Bombazon, Marie de Rohan, plus tard Madame de Chevreuse. Disons quelques mots des parents de la connétable avant de parler d'elle. Elle était fille d'Hercule de Rohan, duc de Montbazon. Ce Rohan était un homme grand, bien fait, et qui, au physique, méritait son nom d'Hercule. Il avait, dans sa galerie, fait faire un portrait où son père, aveugle, était représenté lui montrant le ciel et disant ce fragment de vers de Virgile « Disque puer virtutem » « Enfant, apprends la vertu. » Or, l'enfant avait 45 ans et la barbe la plus majestueuse qui se pût voir. C'était lui qui disait mélancoliquement, en voyant mourir un cheval qu'il aimait, « Mon Dieu, ce que c'est que de nous !»« Quand votre femme accouchera-t-elle » lui demandait un jour la reine. « Quand il plaira à votre majesté, » répondit courtoisement le duc. Il faut avouer pourtant que ses réponses n'étaient pas toujours si polies. Un jour, il dit en présence de la reine-mère qui était italienne et de la jeune reine qui était espagnole « Je ne suis ni italien ni espagnol, je suis un homme de bien. » Un soir que la reine le retenait « Laissez-moi aller, je vous prie, madame, » dit-il. « Ma femme m'attend et dès qu'elle entend un cheval, elle croit que c'est moi. » Au reste, son fils, le prince de Guéménée, était de l'avis de Madame de Montbazon, car, racontant la drôlerie des ponts de C et expliquant comme quoi son père, en passant sur la levée, était tombé à l'eau, « J'allais pour l'en retirer, dit-il. Je tirais en effet une tête de cheval, mais au Beaucette, je reconnus que ce n'était pas mon père. » Comme on appelait Saint-Paul vaisseau d'élection, M. de Montbazon crut que c'était le navire qui avait conduit l'apôtre à Corinthe, que l'on appelait ainsi. Un jour, il demanda si ce vaisseau d'élection était un beau navire et combien il y avait d'hommes d'équipage. Jamais il n'entrait au Louvre qu'il ne demanda « Quelle heure est-il ? » Un jour, on lui répondit « 11 heures ». Il se mit à rire. « Bon, dit M. de Candale, il aurait donc ri encore davantage si on lui eût répondu qu'il était midi. » Faisant sa visite du premier de l'an à la reine-mère, « Enfin, madame, dit-il, nous voici à l'année qui vient. » Il avait fait mettre sur la porte de son écurie, « Le 25 octobre de l'an 1637, j'ai fait cette porte pour entrer dans mon écurie. » « Si vous n'en avez pas assez sur M. de Montbazon, demandez le reste à Madame de Sévigné et lisez sa lettre à Madame de Grignan en date du 29 septembre 1675. » La fille ne tenait point du père sous le rapport de l'esprit, ni son frère, le prince de Guéménée, non plus. Aussi se demandait-on comment M. de Montbazon, qui était si bête, avait pu faire deux enfants si spirituels. D'aucuns prétendaient savoir le mot de l'énigme.
Ce mot n'était pas à la louange de la première femme de M. de Montbazon. Ce frère, dont nous allons dire quelques mots pour ne pas revenir sur lui, avait une singulière habitude. C'était de sentir tout ce qu'il mangeait. Or, comme il avait la vue courte et le nez long, il trempait son nez dans tout ce qu'il mangeait, ce qui était fort désagréable pour ceux qui étaient assis à la même table que lui. Si désagréable à voir que quelqu'un, doutant de la dévotion de la princesse de Guéménée, « Oh !» répondit la connétable, « si ma belle-sœur n'était pas véritablement une sainte femme, elle ne mangerait pas avec mon frère. » M. de Guéménée avait à foison ce qu'on appelle aujourd'hui des maux. Arnaud de Corbeville, qui, dans sa jeunesse, étant gouverneur de Philipsbourg, s'était laissé surprendre, avait plus tard été mis à la Bastille, d'où il sortit gracié par le roi. Le soir, le roi annonça la nouvelle. « Messieurs, dit-il, Arnaud est sorti de la Bastille. »« Je ne m'en étonne point, répondit le prince de Guéménée. Il est bien sorti de Philipsbourg, qui est une place bien autrement forte. » Quand on lui annonça en grande liesse que la reine Anne avait senti remuer M. le Dauphin, « Bon, dit-il, le voilà qui donne déjà des coups de pied à sa mère. Il est vrai qu'il a de qui tenir. » Une fois, Gaston d'Orléans lui tendit la main pour le faire descendre d'une tribune. « Ah, monseigneur, miracle, dit-il, c'est la première fois que vous tendez la main à un de vos amis pour l'aider à descendre d'un échafaud. » Il se disputait toujours avec son oncle, M. d'Avaujour, chacun d'eux raillant l'autre sur sa principauté. M. d'Avaujour prétendit entrer dans la cour du Louvre en carrosse et ne put obtenir cette faveur. « Que n'y entre-t-il par la porte des cuisines ? » dit le prince de Guéménée. « C'est son droit. » M. d'Avaujour descendait de la Varenne. Une autre fois, le cocher de M. d'Avaujour mit pendant un grand soleil ses chevaux à l'ombre sous le porche de l'hôtel Guéménée. « Entre, entre, dit-il, l'hôtel de Guéménée n'est pas le Louvre. » Madame de Guéménée eut plusieurs galanteries et l'on remarqua que tous ses amants eurent une mauvaise fin. Elle fut successivement maîtresse de M. de Montmorency, du comte de Soissons, de M. de Bouteville, de M. de Thou. Messieurs de Montmorency, de Thou et de Bouteville furent décapités. M. le comte de Soissons fut tué d'un coup de pistolet. Elle fut, en outre, mère du prince Louis de Rohan, qui eut la tête tranchée à la Bastille le 27 novembre 1674 pour crime de lèse-majesté. Revenons à Madame de Chevreuse, qu'on appelait alors Madame la Connétable, et appelons-la comme tout le monde. Le connétable logeait au Louvre, et sa femme aussi. Le roi était fort familier avec elle, et ils badinaient ensemble. Mais jamais la chose n'alla plus loin que le badinage. Et cependant, Madame la Connétable en valait la peine. Elle était jolie, friponne, fort éveillée, et ne demandait pas mieux. Un jour, ses avances allèrent au point de blesser la modestie du roi. « Madame, dit-il, je n'aime mes maîtresses que de la ceinture en haut, je vous préviens. »« Eh bien, sire, répondit la connétable, vos maîtresses feront comme gros Guillaume, elles mettront leur ceinture au milieu des cuisses. » Nous aurons plus d'une fois l'occasion de voir Louis XIII mettre en pratique cette théorie à propos des femmes qu'il aima. Mais n'anticipons point sur les événements, comme dirait un classique. Pendant que Deluine se mariait à Paris, voici ce qui se passait aux deux extrémités de la France, à Metz et à Blois. À Blois, dans la nuit du 21 au 22 février, la reine-mère, que son fils avait faite peu à peu prisonnière, la reine-mère descendait, à l'aide d'une échelle, par la fenêtre de son cabinet, sur une terrasse inférieure, distante au moins de 20 pieds et élevée au-dessus du sol de la rue d'une trentaine de pieds. Elle était accompagnée d'une femme de chambre, du comte de Braine et de trois ou quatre de ses serviteurs. Mais elle avait eu si grande peur dans son trajet aérien qu'arrivée sur la terrasse, la prisonnière déclara que, si on ne lui trouvait pas un autre moyen de faire la seconde descente, elle resterait où elle était. On la mit alors dans un manteau qu'on laissa doucement glisser jusqu'en bas à l'aide de cordes. Puis le comte de Braine et Duplessis l'ayant rejointe, la prirent par-dessous les bras et la portèrent ainsi dans son carrosse qui l'attendait de l'autre côté du pont de Blois. On arriva heureusement à Montrichard. L'archevêque de Toulouse, prévenu de la fuite de la reine-mère, l'y attendait. On prit des relais et l'on arriva de bonne heure à Loches. Là, le duc d'Épernon devait, après avoir traversé la France, rejoindre Marie de Médicis. En effet, il était parti de Metz, dont il était gouverneur, avec 200 gentilshommes, et les mesures étaient si bien prises de part et d'autre qu'il arriva lui-même à Loches le lendemain du jour où la reine y était arrivée. C'était une merveille que le roi n'eût pas été prévenu. Un valet de l'abbé Rucellai, qui avait mené toute cette intrigue, portait à la reine-mère des lettres qui l'avertissaient du jour où le duc d'Épernon partirait de Metz et qui lui exposait en même temps les mesures prises pour la conduire à Angoulême. Ce valet soupçonne qu'il est chargé d'une lettre importante et que le roi sera bien aise de connaître. Il va droit à Paris, s'adresse aux gens de Deluynes et leur dit qu'il est porteur d'un grand secret. Il le découvrira aux favoris pourvu qu'on lui donne une bonne somme. Deluynes néglige la vie, fait attendre le valet jusqu'à ce que le conseiller Dubuisson, serviteur de la reine-mère, apprenne qu'un valet, confident de D'Épernon et de Rucellai, est en ville. Étonné de ce que cet homme ne l'ait pas venu voir comme il l'avait fait aux autres voyages, Dubuisson s'enquiert du valet et apprend qu'on l'a vu à la porte de Deluynes. Le conseiller apposte un homme. Cet homme reconnaît le valet, essayant toujours d'entrer. Il s'abouche avec lui comme s'il venait de la part de Deluynes, lui remet 500 écus et prend la lettre. Que devint le valet, on n'en sait rien. Ceux qui l'avaient trompé, dit un chroniqueur, le firent tuer apparemment pour avoir leur argent. Si Deluynes eût reçu cet homme, toute l'affaire manquait. Mais il était occupé d'une chose grave et qui n'était pas sans difficulté. Il s'agissait de faire consommer au roi son mariage avec la reine. Comment, 4 ans après la célébration du mariage, le mariage n'était-il pas consommé? Disons-le, c'est là, s'il en fut jamais, de l'histoire en robe de chambre. Nous avons raconté comment, lorsqu'il avait été question de mariage entre le roi et l'infante d'Espagne, Louis XIII, voulant savoir qui on lui faisait épouser, avait envoyé le père de son cocher, Saint-Amour, à Madrid, pour lui faire un rapport sur la princesse. Le rapport avait été favorable et le roi vint jusqu'à Bordeaux au-devant de la future reine de France. À Bordeaux, la crainte le prit de nouveau. Le père de son cocher, qui se connaissait admirablement en chevaux, pouvait ne pas se connaître aussi bien en femme. Il chargea Deluynes de porter une lettre à l'infante afin de contrôler le témoignage de Saint-Amour. Deluynes partit donc au-devant du cortège de la petite reine. C'est ainsi que l'on nommait Anne d'Autriche pour la distinguer de la reine-mère. Ce ne fut que de l'autre côté de Bayonne que Deluynes rencontra ce cortège. Il descendit aussitôt de cheval, mit un genou en terre en disant « De la part du roi ». Et en même temps, il présentait à l'infante la lettre de Louis XIII. Anne d'Autriche prit la lettre, la décacheta et lut. « Madame, ne pouvant, selon mon désir, me trouver auprès de vous à votre entrée dans mon royaume, pour vous mettre en possession du pouvoir que j'y ai, comme de mon entière affection à vous aimer et à vous servir, j'envoie devers vous Luynes, l'un de mes plus confidents serviteurs, pour, en mon nom, vous saluer et vous dire que vous êtes attendu de moi avec impatience et pour vous offrir moi-même l'un et l'autre. Je vous prie donc de le recevoir favorablement et de croire ce qu'il vous dira de ma part, madame, c'est-à-dire de votre plus cher ami et serviteur, Louis. » L'infante remercia gracieusement le messager, le pria de remonter à cheval et de marcher près de sa litière et continua son chemin tout en s'entretenant avec lui. Le lendemain, elle lui remit cette réponse en espagnol. Anne d'Autriche n'écrivait encore ni ne parlait le français.
« Señor, mucho me he holgado con Luynes, con las buenas nuevas que me ha dado de la salud de vuestra majestad. Yo ruego por ella, y muy deseosa de llegar a donde pueda servir a mi madre. Y así me doy mucha prisa a caminar por la mano a quien Dios guarde como deseo. Beso las manos a vuestra majestad. Ana. »
Ce qui voulait dire?
Sire, j'ai vu avec plaisir Monsieur de Luynes, qui m'a donné de bonnes nouvelles de la santé de votre majesté. Je prie pour elle et suis désireuse de faire pour elle ce qui peut être agréable à ma mère. Ainsi, il me tarde d'achever mon voyage et de baiser la main de votre majesté. Anne.
Deluine prit la lettre et partit au galop. En effet, il avait de bonnes nouvelles à porter au roi. L'infante était belle à ravir. Mais Louis XIII, soit désir, ce qui n'est pas probable, soit bien plutôt incrédulité, ne s'en rapporta pas plus à Luynes qu'il ne s'en était rapporté au père Saint-Amour. Il voulut voir de ses yeux. Il partit à cheval avec deux ou trois personnes, dont étaient Deluine et le duc d'Épernon, s'arrêta à l'entrée d'une petite ville située à 5 ou 6 lieues de Bordeaux, contourna la ville, entra dans une maison désignée d'avance par la porte de derrière de cette maison et s'établit au rez-de-chaussée. Une heure après, l'infante faisait son entrée dans la ville. Le duc d'Épernon, qui avait le mot, arrêta la litière pour haranguer la petite reine, et cela juste en face de la maison où était caché Louis XIII. Pour faire honneur au duc, Anne d'Autriche fut forcée de sortir tout le haut de son corps par la portière de la litière. Le roi la vit donc tout à son aise. La harangue finie, l'infante continua son chemin, et le roi, enchanté de la trouver encore plus belle qu'on ne le lui avait dit, remonta à cheval et piqua vers Bordeaux, où il arriva longtemps avant l'infante. Et, en effet, si l'on en croit tous les historiens du temps, Anne d'Autriche était d'une beauté accomplie. Elle était grande, bien prise dans sa taille, possédait la plus blanche et la plus délicate main qui eût jamais fait un geste de reine. Des yeux parfaitement beaux, se dilatant avec facilité, et auxquels leur couleur verdâtre donnait une transparence infinie. Une bouche petite et vermeille qui semblait une rose animée et souriante. Enfin, des cheveux longs et soyeux, de cette charmante teinte cendrée qui donne à la fois au visage qu'ils encadrent la suavité des blondes et l'animation des brunes. La cérémonie du mariage fut célébrée le 25 novembre 1615 à Bordeaux. Mais comme les royaux conjoints n'avaient pas tout à fait 28 ans à eux deux, ils furent conduits au lit nuptial chacun par sa nourrice, qui ne les quitta pas. Ils demeurèrent couchés ensemble 5 minutes. Après quoi, la nourrice du roi fit lever sa majesté et l'infante resta seule. La consommation du mariage ne devait avoir lieu que 4 ans plus tard. Voilà pourquoi, en 1619 seulement, Deluine s'occupait de cette grave opération qui devait s'accomplir à Saint-Germain, et cela au moment même où Marie de Médicis s'échappait du château de Blois.